Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts.
Il est top. Il est top professionnel. Désolé. Pardon. Désolé.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamain.
L'After ce soir avec Kevin Diaz et Sébastien Piocel, 21h sur RMC. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, on parlera du Mercato, la page Mercato, du Mercato Show à partir de 21h45. Et puis, Sébastien veut évoquer les retours des joueurs dans leur ancien club ou de leur pays d'origine, rarement assortis d'un succès. Hein. Tu fais écho au retour annoncé de Luis Suarez en Uruguay, dans le club où il a débuté professionnel, le national de Montevideo.
Et
des Lyonnais également, et pas que. Bon, je suis sûr qu'on va trouver des contre-exemples.
Ah, j'en ai déjà plein.
Ah, mais très bien.
Ah, j'ai déjà Kevin en face.
Eh oui.
Kevin en face, bien sûr, qui nous parlera dans un instant de son parcours également. Mais d'abord, j'accueille Alexandre Marle, ancien responsable de la performance au Paris Saint-Germain, époque Laurent Blanc, et à l'Olympique Lyonnais, R. Bruno Genesio. Bonsoir, Alexandre.
Bonsoir à tous.
Merci.
Bonsoir, Alexandre. Nicolas, Sébastien.
Merci beaucoup d'être avec nous, Alexandre. Aujourd'hui, vous travaillez avec des sportifs de haut niveau, hein, qu'il faut remettre sur pied, pas que des footballeurs d'ailleurs. Hein. C'est bien ça,
oui,
Alexandre.
Non, c'est ça. Oui, football, rugby, basket notamment.
Et vous êtes à La Rochelle, désormais installé, bénévole aussi pour le club de foot de La Rochelle en tant que sportive rochelaise.
Oui, oui. Dans le conseil d'administration avec Philippe Biolot notamment.
Avec Philippe Biolot, bien sûr. Dites-moi d'abord, pour ceux qui nous écoutent, hein, comment vous pourriez résumer, synthétiser votre compétence responsable de la performance, ça veut dire quoi dans un club comme le PSG ou l'Olympique Lyonnais?
Bah, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi un travail d'équipe. Je travaille avec des assistants et le relais médical notamment et les kinés. C'est s'occuper de la préparation physique, du suivi des joueurs au quotidien, le suivi des données physiques, GPS, cardiofréquencemètre, le suivi des analyses sanguines, urinaires, la nutrition, le sommeil, la récupération. Voilà, globalement, une palette rapide de ce qu'il faut faire et mettre en place pour que les joueurs soient au mieux pour performer sur le terrain.
Vous définiriez comme un scientifique également?
Oui, bah, c'est un peu mon parcours aussi, hein, de base, avant d'être totalement dans le sport professionnel. J'ai quand même fait des études, j'ai fait un doctorat en biologie et c'est par ce moyen-là aussi que j'ai étudié les facteurs limitants de la performance chez l'athlète de niveau.
Au départ, c'est le football votre domaine ou pas? Ou c'est vos études qui vous ont amené au football?
C'était plusieurs sports, mais c'était le football en priorité.
Votre parcours,
c'est par la fédération, notamment la Fédération Française de Football, à partir de 2007 jusqu'à 2012.
C'est ça, vous étiez adjoint, préparateur physique adjoint sous Laurent Blanc en équipe de France.
Oui,
c'est lui ça, qui vous amène dans ses valises d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. J'étais dans les formations de cadre. J'ai eu toutes les sélections de jeunes, de U15 à Espoir et les A également, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont même encore actuellement en équipe de France, je les connais tous.
Bon, on a un gros CV. Hein. Tout à l'heure, je vous poserai comme des questions sur votre ère parisienne et lyonnaise.
Oui.
Il y a des anecdotes assez savoureuses concernant votre travail, vos collaborations avec des joueurs comme Ibrahimovic, notamment, et à Lyon aussi. Juste avant de donner la parole à Kevin et Sébastien, qui sont bien plus pointus sur la question, puisque vous aviez eu affaire à des préparateurs physiques dans vos carrières, les gars. Vous faites partie également de ceux qui ont apporté, Alexandre, en France, l'utilisation des GPS et autres data dans le football français. Hein.
Oui, c'est ça. J'avais fait venir ça d'abord. Il faut savoir que ça a été créé en Australie, hein, toutes ces données GPS et données data. J'avais fait venir ça par l'intermédiaire du rugby, notamment parce que c'est le rugby qui a été fort implanté sur toutes ces données. Et en France, ça a mis beaucoup de temps à émerger. On avait toujours des réticences de savoir ce que les joueurs allaient faire réellement sur le terrain. Et je pense que les joueurs aussi avaient certaines réticences. Donc il y a eu quand même quelques années difficiles, alors que il y a pas mal de pays qui avaient anticipé ça et d'autres sports également.
T'as eu, toi, Sébastien, dans ta carrière, t'as bossé avec les data, justement, avec les GPS, où tu faisais partie de l'ancienne génération, juste à la limite de la nouvelle, qui a utilisé ces outils-là.
Seb, il a joué avec des protèges tibias qui faisaient 40 centimètres.
Là, oui, un petit peu en fin de carrière, mais c'est vrai que nous, j'ai arrêté en 2013-2014 au Nîmes Olympique. Bon, déjà, c'était en Ligue 2, mais ça avait commencé. Mais je pense que c'était d'abord des clubs vraiment structurés qui utilisaient ce type de matos. Et puis surtout, il y en avait très peu. C'est-à-dire, il y avait 3-4 trucs à se partager. Donc, c'était très, très limité. Aujourd'hui, forcément, on est rentré dans une nouvelle ère. Et puis, plus particulièrement, c'est là où je rejoins un peu Alexandre, c'est-à-dire que le changement, ça fait toujours peur en fait quand tu arrives dans des clubs. C'est-à-dire que je prends l'exemple des médecins, des docteurs en club, où justement quand il y avait quelqu'un qui arrivait un peu de l'extérieur avec des nouvelles méthodes, au début il faut faire ses preuves parce que on va un petit peu sur leur terrain. Donc mais bon, aujourd'hui forcément on est passé à autre chose, mais c'est pour ça que aujourd'hui on demande plus en plus de choses aux joueurs, notamment dans la performance. Moi j'avais surtout une question, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de prépa physique, et notamment celle qui est hyper importante, c'est celle de pré-saison. Est-ce qu'il y a un endroit, un lieu en particulier pour faire une meilleure préparation? Bon, on va y venir après, peut-être avec le Japon.
Tu parles de quoi? Tu parles d'altitude?
D'altitude,
bord de mer.
Et surtout sur combien de temps? Parce qu'on parle souvent de 6 semaines en général pour bien se préparer. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que à force de l'entendre, tout le monde fait 6 semaines? Voilà,
Alexandre.
Oui, c'est une très bonne question, et puis on est parfois sur des lobbying, que ce soit des lobbies financiers ou aussi des intérêts, ou à retourner plusieurs fois dans le même endroit pour faire un stage. Mais bon, aujourd'hui c'est quand même assez clair, et c'est clairement établi scientifiquement. Le mieux, c'est quand même de travailler en ambiance chaude. Ça, c'est le plus important, puisque l'intérêt du travail en ambiance chaude, c'est-à-dire avec des températures autour d'une trentaine de degrés, voire plus.
Ah ouais.
Sans un taux d'humidité très élevé. C'est pour ça qu'on parlera un peu du Japon, c'est le cas contraire. En fait, travailler en ambiance chaude, ça a des améliorations très rapides en début de saison. Ça permet d'avoir des adaptations centrales, c'est-à-dire qu'on a des adaptations cardio-pulmonaires qui sont bien meilleures et beaucoup plus rapides. Donc, dès lors qu'on reprend le début de la saison, c'est vraiment très important de travailler en ambiance chaude. Les temps de travail sont moins élevés, mais on a une meilleure aptitude aérobie très rapidement, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un atout à travailler en ambiance chaude. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs qui essayent d'aller travailler dans des endroits où on a des conditions de stage optimales et des températures qui sont plutôt bonnes.
Alors Alexandre, je te coupe, parce que du coup, moi quand j'étais à Nantes, quasiment tous les ans on partait en Autriche, justement pour chercher un peu de fraîcheur. Du coup c'est hyper
reçu. Il y avait un peu d'altitude aussi, est-ce que l'altitude ça peut jouer ou pas du tout?
Oui, aller en Autriche, clairement non, ça n'a pas d'intérêt spécifique, ça c'est clair.
Il y avait des bonnes
En même temps, je peux vous dire que Feyenoord Rotterdam et l'Ajax Amsterdam étaient en Autriche sur les trois dernières semaines. Ils y sont encore là.
Après, ça dépend, il y a des partenariats qui sont établis. Nous, quand on est à Lyon, on a la Tigne. Mais en fait, à la Tigne, c'est bien, mais il faut être au-dessus de 2000 mètres. Aller en altitude, il faut être au-dessus de 2000 mètres et il faut rester globalement 15 jours.
Pourquoi?
En fait, les adaptations en altitude, il faut au moins être à 2000 mètres pour se priver d'un certain... Plus on monte en altitude, plus le taux d'oxygène dans le sang diminue, en fait. On a une captation qui est moins importante. Au niveau de la mer, on est à 20% d'oxygène. Plus on monte en altitude, plus on diminue, 19, 18, 17. Et donc, il faut au moins monter à 2000 mètres, c'est le minimum en termes de critères. Et après, il faut y rester à un moment, parce qu'il faut s'adapter.
Et oui.
On va s'adapter et on va produire plus de globules rouges. Qui dit produire plus de globules rouges, on va remonter. Les globules rouges vont plus vite circuler, ils captent plus vite l'oxygène. Et donc, on va remonter à 20-21%, comme au niveau de la mer, mais il faut rester au moins une dizaine de jours. C'est-à-dire que d'aller en Saint-Jatigne, qui est à 1800 mètres, et d'y rester 7 jours...
Ça n'a aucun intérêt, et au contraire, c'est contre-productif. Voilà. Ce que vous me dites, excuse-moi Kevin, Alexandre Marle, c'est que ce que fait le PSG en termes de préparation d'avant-saison à Tokyo, taux d'humidité qui approche les 80%, c'est n'importe quoi.
C'est difficile, quoi. On ne peut pas faire une bonne préparation en faisant ça c'est clair. Le staff le sait, le médecin le sait, le coach le sait... Il y a une logique financière qui est derrière, de toute façon, une logique de tourning, une logique de marketing.
Bien sûr, parce que de toute façon, certains autres grands clubs, dont le Bayern et Manchester City, sont à Miami, où je crois le taux d'humidité est également assez élevé. Alors, c'est peut-être pas.
Un petit peu moins, mais c'est assez élevé. Oui.
Ouais, c'est assez élevé aussi. Donc, là, on sait, et ça vous l'avez dit, donc à ce niveau-là, les considérations financières des tournées d'avant-saison prennent beaucoup trop de place. Et ça, malheureusement, quand on parle du foot business, ça, c'est encore une fois une des dérives. Mais bon, moi, j'ai envie de revenir parce que, pour le coup, j'ai connu le début de la période. Avec à la fin de ma carrière, mais j'ai commencé à un niveau où c'est vrai qu'on pensait que partir à la fraîche en été c'était bien. On pensait aussi, au niveau de la nutrition, un truc tout bête. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'étais tout content de dire. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir. Même si maintenant la nutrition, le travail invisible, tout ça à tous les niveaux, même dans le running, on commence à s'y pencher fortement. Mais tu vois, moi, je pensais, les gars, que manger des pâtes le soir avec de la viande blanche, c'était très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 15 ans après, je sais qu'au contraire, je le conseille pas, mais je le dis encore des fois à des jeunes joueurs qui sont dans des centres de formation, qui sont même à un niveau professionnel, et ils n'en ont pas forcément conscience.
Alexandre.
Non, mais t'as entièrement raison. Je fais juste un petit point sur l'initiation, mais c'est clair que il y a deux méthodes de récupération qui sont principales, c'est le sommeil déjà, et c'est l'alimentation. Après, il y a toutes les autres techniques, mais 80-90% de la récupération globale du sportif de haut niveau, c'est ça. Si on soigne son alimentation, si on soigne son sommeil, on récupère bien. Après, on peut faire de la cryothérapie, on peut faire des bas-fonds, on peut faire des bottes de compression, on peut faire des massages, on peut faire ce qu'on veut.
Non, mais c'est pour ça que je voulais juste dire que les idées reçues d'une certaine époque sont plus du tout celles d'aujourd'hui.
Et puis tu restes là-dessus,
C'est exactement ça. On n'a pas non plus tout révolutionné. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles idées, il veut tout révolutionner, mais il va affiner, il va préciser les choses, en fait. Donc, on va aiguiller les joueurs et même le staff dans des directions qui sont un peu plus précises que ce qu'on faisait avant. Et c'est un peu l'arrivée des datas, ça nous aide, en fait, à ça, surtout.
Alexandre Marlin, ancien responsable de la performance au PSG à l'Olympique Lyonnais, est avec nous dans l'after avec Kevin Diaz et Sébastien Piocel. Longtemps, Alexandre, on a valorisé, nous journalistes, joueurs également et observateurs, les grosses préparations physiques d'avant-saison à l'italienne. Grosse charge de travail. Combien de joueurs ont répondu aux médias français après être partis en Italie ? Ah ouais, là on bosse là. Là c'est sérieux les gars, on vomit nos tripes en avant-saison. Ça ressemblait à une préparation militaire comme celle qu'on a pu voir par extrait d'Antonio Conte avec Tottenham la semaine dernière, on en a parlé Sébastien. C'est un grand principe que vous validez encore ça ou pas ?
Oui, tout à fait. En fait, pour avoir vu ce qui se passe en France, vu ce qui se passait aussi à l'étranger, parce que je suis passé aussi par Manchester City pendant un bon moment.
Oui, effectivement.
Clairement, on doit s'entraîner tous les jours. On a face à nous ça va peut-être faire réagir des joueurs pros, mais ou des anciens joueurs pros, mais le corps, l'outil de travail, le meilleur outil pour le travail, la récupération, c'est vraiment quasiment de solliciter tous les jours. Donc, il peut avoir des jours de récup, un jour en général par semaine, mais en France, on a trop tendance à donner pas grand-chose à J-2 du match, pas grand-chose à J+2. Donc à J+1, il n'y a rien. À J-1, on fait un peu de diversité, ce qui fait qu'on s'entraîne vraiment un petit peu moins. Et les grosses préparations d'avant-saison, bien évidemment, mais c'est même toute la saison, on devrait s'entraîner beaucoup plus, en fait.
Donc vous, ça vous choque pas quand vous voyez Harry Kane, là, qui finit épuisé sur le terrain, et d'autres joueurs également.
Ça me gêne
quasiment perdre confiance, quoi.
C'est ça le problème des préparateurs physiques.
Non, parce qu'il y a d'autres écoles maintenant, Alexandre, effectivement, qui expliquent que, attention à ne pas valoriser trop la souffrance, notamment en préparation.
On est d'accord.
C'est un dogme qui a longtemps été véhiculé. Si on souffre, c'est qu'on bosse bien. Vous êtes d'accord avec ça déjà?
Non, il n'y a pas que ça, en fait. C'est vraiment une quantification, une planification de la charge au quotidien. Bien évidemment qu'un joueur, s'il commence à être en difficulté, c'est grâce aux apports des outils, des GPS, des accéléromètres et de toutes ces datas qu'on arrive plus ou moins à tamponner un petit peu ces écarts qu'on faisait avant. Parce que soit on en faisait trop, soit on en faisait pas assez. Aujourd'hui, on essaye de faire juste ce qu'il faut, en fait, tout simplement.
Non, mais après, j'ai envie de dire, si tu bosses pas à ce moment-là, tu bosses quand déjà? Enfin, vraiment,
ouais,
je
veux
dire,
non, mais il faut travailler. Clairement, on travaille pas assez.
Il travaille pas assez en France, vous dites aujourd'hui.
En France, oui. J'ai rencontré beaucoup de joueurs étrangers à Paris, notamment quand ils sont venus au PSG et qui me disaient, quand est-ce qu'on va en faire plus, quoi? Est-ce qu'on travaille suffisamment, quoi?
Non, mais et puis alors il y a quelque chose,
on le savait,
c'est que la préparation, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, c'était vraiment une des périodes que je préférais. C'est là où tu découvres ton nouveau staff, tes nouveaux partenaires, toi tu découvres ton nouveau club lorsque t'as changé de club, etc. Et il y a quelque chose qu'on dit pas assez et que moi j'aime à rappeler, c'est que le travail physique, c'est aussi et presque surtout un travail mental. C'est-à-dire que quand on fait un test physique d'effort en groupe, en tout cas, c'est là où tu vois les attitudes des uns. Qui est-ce qui va aller chercher les gourdes? Qui est-ce qui va aller encourager les autres à se dépasser? Qui est-ce qui va être premier, qui va pas regarder derrière? Qui est-ce qui va peut-être ralentir pour aider le collègue qui est juste derrière?
Du rafting pour ça ou du canyoning aussi?
Non, c'est dans l'effort, c'est dans l'effort et la souffrance que tu vois le caractère et la personnalité des gens et surtout des leaders.
Je me conditionnais en fait.
Moi, je me préparais et quand t'es vieux, Seb, est-ce que tu te prépares encore mieux à montrer aux jeunes que venir chercher ta place, ça va être compliqué?
Exactement. Moi, j'avais une question plutôt spécifique à cette saison-là avec la Coupe du Monde fin novembre. Est-ce que justement dans une logique d'un championnat plus Coupe d'Europe là de 3 mois et demi, 4 mois, est-ce qu'on se prépare différemment?
Je vais vous dire, les clubs préparent des joueurs pour leurs échéances. Aujourd'hui, il y a que les joueurs qui pourraient imaginer de se préparer pour la Coupe du Monde, mais ça paraît très compliqué aujourd'hui. Le PSG.
Non, mais est-ce qu'elle change globalement dans les clubs, vu que là, il faut quand même partir fort.
Pour les clubs, il va y avoir beaucoup de matchs à approcher.
Oui, bah de toute façon, pour les clubs, ils n'ont pas trop de choix. Ils ont quand même l'obligation de bien démarrer, encore plus les clubs qui auront moins de marge, bien évidemment. Mais oui, ça démarre très vite avec le championnat, la Ligue des Champions. Donc oui, il faut très vite prendre des points, ça c'est certain. Et après, il y a la Coupe du Monde qui arrive, bien évidemment. Mais bon, après, ça, tout face, c'est plus le post Coupe du Monde, moi, qui
m'a. C'est-à-dire.
Aller au Qatar, jouer en ambiance chaude, etc. Ça passe pas. Pour moi, ça va pas poser de problème pour les joueurs qui partiront, puisque bon, ils vont quitter l'Europe ou la France pour les joueurs français, où il va commencer à faire un peu plus frais. Et bon, jouer au chaud, c'est très bien. C'est plus le retour. On va retrouver des terrains durs, le froid, etc. Oui. Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. On risque d'avoir beaucoup plus de cas, c'est beaucoup plus de difficultés de récupération également.
Sachant qu'il y aura que 10 jours entre la finale du mondial et la reprise de la Ligue.
Et tout à l'heure, j'ai parlé de la nutrition et l'autre aspect dont vous avez, sur lequel vous avez appuyé. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est sur le sommeil. J'ai entendu que l'AS Monaco, il y a à l'époque de Kovac, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'espère.
Oui, c'est encore le cas.
Ils avaient un surmatelas pour chaque joueur lors des déplacements. Est-ce que c'était bien ça? Et si c'était le cas, je trouve ça exceptionnel parce que moi, je faisais partie de ces joueurs. Je sais pas pour Seb. Moi, je détestais dormir à l'hôtel, peu importe la qualité de l'hôtel. La première nuit, j'avais toujours un temps d'adaptation au matelas.
Alors qu'on est
souvent sur de la bonne literie. Alors quand tu prenais l'avion avant, moi, franchement, je détestais ça. C'est-à-dire que voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a des joueurs qui vraiment ont besoin d'un sommeil ou dans des conditions qui sont presque comme à la maison, quoi.
Faut qu'on fasse. Vous confirmez le spécialiste matelas à Monaco?
Tout à fait, ça se fait à Monaco. Il n'y a pas que ça, mais ils font aussi d'autres choses.
Par exemple, dans
le même style. Ils ont adapté les conditions de voyage, notamment, que ce soit le bus ou l'avion. Ils ont amélioré le confort des joueurs lors des déplacements. Ça, c'est le premier point. Ils ont amélioré aussi les conforts des literies au club, puisqu'ils ont aussi adapté avec des salles de repos, aussi des espaces de repos dédiés aussi, avec une baisse de lumière, de luminothérapie, etc. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Monaco. Beaucoup de choses qui existaient déjà à l'étranger, mais voilà, Monaco s'en inspire de plus en plus.
Le football devient presque.
On aurait joué là maintenant.
Vous seriez monstrueux.
Ça devient presque une clinique, un hôpital, un club de foot désormais. C'est fou, non, quoi. Toutes ces sciences qui se croisent, évidemment.
C'est ce qu'on appelle.
Et de plus en plus. Entre la luminothérapie.
Eh oui.
L'ergonomie.
C'est ce qu'on appelle les gains marginaux. Il y a aussi le yoga, la concentration des joueurs. Oui. Il y a plein de choses aujourd'hui à mettre en place. Il y a plein d'outils.
Non,
après, il faut aussi que les entraîneurs soient ouverts à ça.
Oui, non, mais il y a même une position d'assise ou de sommeil qui a été brevetée aujourd'hui par la NASA, qui commence à sortir. Et il y a une position pour dormir mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que les matelas ou les fauteuils qui commencent à amener dans les clubs commencent à ressembler à ça.
C'est-à-dire, ça ressemble à quoi le fauteuil idéal ou le matelas idéal?
Oui, on est sur une position qui est pas totalement allongée finalement. Enfin, on a les jambes qui sont les cuisses qui sont relevées, les jambes un petit peu moins, qui sont un petit peu en dessous, et le corps est un petit peu relevé, et la tête un petit peu en arrière.
Moi, bon, je vais essayer ce soir.
Ah, ils ont plus d'excuses, les joueurs.
Je vais essayer ce soir, Alexandre. Alors, racontez-nous vos expériences à Paris et à Lyon. Commençons par le PSG. Vous êtes arrivé, c'est bien ça, en 2014 à Paris, hein?
Non, j'étais déjà en 2013.
Ah oui, avec Ancelotti.
Une partie avec Ancelotti. Ancelotti.
Vous avez découvert un club parfaitement équipé et sensible aux nouvelles technologies ou pas à Paris quand vous arrivez?
Qui commençait à s'équiper, sensible aux nouvelles technologies, oui, moi aussi.
Et quel type de joueurs vous avez rencontré à Paris? Différentes divisions de joueurs dans la rigueur également ou pas?
Oui, il y avait une grosse différence de niveau. Il y avait quand même, pour moi à Paris, on avait 28 joueurs, il y avait 22, 23 joueurs très professionnels. Il y en avait 6 qui étaient moins. Je pourrais faire une comparaison à Lyon en parallèle en disant quand je suis arrivé à Lyon, j'ai trouvé un ou deux joueurs très professionnels et 26 qui étaient pas quoi. Voilà, c'est un peu c'était un monde à part quoi, en fait, clairement.
C'était qui les très bons élèves à Paris? On a souvent cité Maxwell en exemple, Thiago Silva.
Thiago Motta, Thiago Silva, Ibrahimovic, Cavani. C'est assez simple. Moi, j'arrive au PSG.
C'est pas de mystère.
J'arrive au camp des loges, j'étais 6h du matin. Les premiers joueurs arrivaient vers 7h, 7h10 pour prendre le petit déjeuner. Et ils repartaient. La journée type, c'était ça. Ils arrivaient vers 7h10, prenaient le petit déj. Derrière, ils commençaient un petit peu de travail de soins avec leur physiothérapeute ou les physios du club. Derrière, on les prenait un petit peu en musculation. Ensuite, il y avait la séance sur le terrain. Après la séance sur le terrain, ils passaient en récupération avec les kinés ou avec des prépas physiques. Derrière, ils allaient manger. Entre temps, si je leur avais pas donné les données physiques de la matinée, ils venaient d'une étape au bureau parce que ils voulaient savoir où est-ce qu'ils en étaient.
Un joueur comme Ibrahim Ibrahimovic faisait ça, il venait taper à votre bureau.
Ah, oui, bah, régulièrement, Maxwell Ibra, c'était les deux, c'était, parfois, j'avais pas trop le temps d'organiser la totalité de la journée quand on avait, quand il y avait un peu de blessé ou quand il y avait d'autres choses à faire. Et c'est clair que si j'avais pas descendu les résultats, avant que ce soit qui monte, bah, il venait tout de suite au bureau, quoi.
Et Marco Verratti, il tapait au bureau ou pas?
Bah, il était intéressé, il tapait pas forcément bureau, mais il était quand même toujours dans cette, dans
il vous a demandé les meilleures adresses pour les discothèques?
Je ne répondrai pas.
Non, mais je veux pas de nom, mais en tout cas, globalement, ce sont les joueurs français qui étaient les moins aguerris à ces méthodes-là.
Moins, oui, non, c'est ça. C'est sûr, ouais, c'est ça. Et puis, je finis juste, il y avait le repas du midi derrière, il est retourné parfois pour un travail en salle. Ensuite, de récupération, il repartait vers 17h, 18h. À Cavani, il était là de 8h à 18h, par exemple. À Lyon, les joueurs arrivent à 10h, à 12h30, il n'y a plus personne.
Incroyable, tellement que
pour moi c'est ça l'écart. Il est abyssal en fait.
C'est dingue parce qu'on parle d'un club comme Lyon quand même, qui est un club qui a longtemps été un club dominant en France en Ligue 1, qui fait partie des grosses équipes de notre championnat et qui encore, vous me dites, parce que Lyon, vous arrivez à Lyon en 2015, c'est ça?
Je fais une année avec Hubert Fournier, une année avec
Bruno Genesio. Ouais. Vous êtes deux fois vice-champion de France avec Lyon.
Ouais, on aurait dû gagner le titre la première année d'ailleurs, mais bon. Ouais, voilà. C'est terrible, mais bon, c'est comme ça.
Est-ce que vous expliquez également dans un article de Sud Ouest, d'ailleurs excellent à lire en décembre dernier, c'est que les joueurs n'ont pas compris votre méthode de départ, non, votre exigence, et notamment Maxime Gonallon qui est allé s'en plaindre.
Ah oui, tout de suite, et en fait le problème c'est que moi j'avais pas mesuré ça, mais c'est vrai qu'il y avait un peu les joueurs de l'institution lyonnaise, c'était difficile en fait de bouger les acquis qu'ils avaient en fait depuis des années. Bah. Moi quand j'ai voulu faire doubler les séances dans la journée, une séance le matin, une séance l'après-midi, la première fois je me suis fait taper un petit peu sur les doigts, la deuxième fois on m'a dit clairement faut arrêter. Et même si j'étais soutenu au départ par le président, par le coach à un moment donné, bon, ça, c'est plus possible. Quoi.
Alors après, juste sur la double séance, moi personnellement, de ma petite expérience, je préfère m'entraîner, peut-être que physiologiquement, c'est à vous de me dire, peut-être que c'est moins bien, mais je préfère m'entraîner sur une grosse séance et faire de la récup après, faire un peu d'entretien, que venir deux fois, parce que honnêtement, surtout quand les années elles passent, deux fois pour remettre la machine en route, des fois c'est un peu compliqué.
C'était plus en période de préparation, c'était pas.
Ah ouais, ok, en période de préparation, d'accord.
Et après, ce que je souhaitais aussi, c'est parfois faire du travail avant avec les joueurs en salle ou après. Les garanties, vous voyez, c'était pas faire deux grosses séances d'entraînement obligatoirement.
Alors, j'ai juste une question.
C'était compliqué d'ajouter des choses, en tout cas. Ça a vraiment été compliqué d'ajouter en plus que ce qui était proposé par le coach, quoi.
Ouais, ben ça, on peut le comprendre. D'ailleurs, on voit les résultats. Mais par exemple sur la musculation, que ce soit avant ou après, on a eu le débat là avec Hugo Ekitike ou même avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'il aurait pris ou perdu de la masse? Moi, je vous avoue que ça m'intéresse parce que j'ai un physique quand même aussi assez frêle comme ça. Et on a vu un gars comme Hakim Ziyech qui a jamais fait de musculation, Riyad Mahrez non plus. En tout cas, on en a pas l'impression. Et par contre, à Antem Ben Arfa, quand il était parti à Newcastle, je me rappelle qu'il avait pris quelques kilos de muscle, je sais pas exactement combien. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour les physiques comme ça, à la Hugo Ekitike, qui sont quand même, on va dire, assez frêles, mais du coup assez vifs ou qui...
C'est exactement ça. C'est vraiment le profil par athlète en fait, tout simplement. Il y a des postes qui demandent bien sûr un peu plus d'agilité, un peu plus de vivacité, et on peut pas. Si on sait très bien que la musculation, ça va à l'encontre de la vivacité, surtout la musculation lourde, etc. Par contre, il y a un besoin quand même de renforcement parce que quand on parle de musculation, c'est pas non plus que de gonfler la masse musculaire et que de prendre du poids, bien évidemment, parce que là, si on prend du poids, bien évidemment, on perd en vivacité, mais c'est aussi de protéger les muscles et aussi de faire gagner de l'endurance aux muscles, en fait, tout simplement.
Okay.
On est vraiment plutôt sur un aspect endurance pour ce genre de joueurs-là, qui vont pouvoir répéter des efforts et sans aucun problème, mais on ne sera pas dans un aspect un peu hypertrophique qu'on pourrait demander pour certains défenseurs centraux, pour certains attaquants.
Mais pourtant, il y a une notion comme ça de... Il y a une notion comme ça de musculation Instagram, on a appelé ça l'année dernière, j'avais trouvé ça pas mal dans un article, je crois, de Eurosport.
Les muscles show off un petit peu.
Voilà, les muscles pour
bling bling.
Les muscles un peu à la Kerrer là qui avait fait, on a l'impression, pour pouvoir faire des belles photos sur Instagram.
C'est vrai, t'as raison, il était revenu métamorphosé.
Mais au final ou Goretzka, au final est-ce que ça sert vraiment? Je suis pas sûr parce que au final Goretzka n'arrête pas de se blesser par exemple.
Non, mais si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Si c'est juste pour un aspect esthétique, il n'y a aucun intérêt. Il faut être d'accord. En plus, on a tendance vraiment, plus on muscle le haut du corps, surtout pour un footballeur, plus on va perdre en mobilité, en vivacité. L'important, c'est d'avoir un bon équilibre et le transfert des forces chez le footballeur, on l'oublie assez souvent, mais c'est quand même le dos et les fessiers quand même. C'est surtout cette partie-là qui doit être très renforcée.
Sébastien,
Moi j'avais une question pratique. Parce que
vous les voyez pas, excusez-moi Philippe, Sébastien et Kevin, mais ils se régalent là. Ils ont plein de questions à vous poser post-carrière.
Non, j'ai une question.
C'est fini la carrière les gars, plutôt, c'est terminé. Hein.
Ouais, pas sûr, on est bien physiquement. une question pratique, tu étais donc prépa club, donc dans un club, et aujourd'hui donc tu t'occupes d'athlètes donc individuellement qui sont avec toi donc en dehors du club. Comment ça se passait quand tu étais à l'intérieur du club et maintenant, parce que souvent on disait qu'il y avait beaucoup d'informations différentes au niveau du travail à faire. Est-ce qu'il y avait, une bonne entente? Est-ce que c'était mal perçu? Comment est-ce que ça évolue aussi?
C'est souvent mal perçu, ça évolue pas beaucoup. Après, faut que chacun reste à sa place aussi. Moi, quand je travaille hors des clubs, comme ce que je fais actuellement, je suis soit en lien avec, si j'interviens dans la saison, je suis vraiment en lien avec, j'aime bien que le coach soit au courant et que le prépa du club soit au courant et que le staff médical soit au courant. Sinon, la plupart du temps, c'est hors saison. Comme ça, au moins, on n'est pas trop en conflit par rapport à ce qui pourrait être fait. Et surtout, faut bien savoir ce qui est fait par le joueur dans la semaine, sinon c'est impossible de faire quelque chose entre-temps. Ça serait vraiment maladroit d'aller faire des compléments de séance dans une semaine. Ça ferait rajouter de la charge de travail à un joueur, alors qu'au club, il y a des gens qui calculent justement cette charge de travail pour optimiser la semaine.
Alexandre Marle, qui était avec nous, ancien responsable de la performance du PSG et de l'Olympique Lyonnais. Quand vous regardez un match de foot comme nous devant votre télé, je mets que vous posez un regard différent d'une autre, peut-être. Est-ce que vous arrivez à voir rapidement qu'un joueur est à court de forme physiquement? Est-ce que vous avez des indices à nous donner, nous, quand on analyse des matchs après ou même pendant d'ailleurs?
La première chose qu'on voit, c'est l'attitude du joueur sur le terrain. Après certains efforts, on voit très bien comment il se replace déjà.
C'est-à-dire, par exemple,
si d'entrée il pose un peu les mains sur les hanches, qui est en train de s'abaisser un petit peu, essayer de s'étirer, ou même dans la vitesse de replacement, parce qu'il y a soit on se replace très vite, soit on se replace en footing, soit on se replace en marchant rapidement. Mais quand on commence à se replacer en marchant lentement avec la tête en bas, là, ça commence à être très très dur. En fait, c'est un peu les étapes qui sont assez faciles à lire. En tout cas,
vous parlez de quelqu'un en se replaçant, en marchant la tête basse.
Oui, ça devient difficile, quoi. Surtout s'il perd pas 3-0, quoi. Je dirais, il n'aurait pas.
Non, mais Kevin et sa perfidie, hein, voulez-vous lancer sur Lionel Messi, bien sûr. Mais bon, là, c'est pas une question de préparation physique, Lionel Messi. C'est un choix.
C'est le seul joueur au monde qui joue qu'avec le ballon. Quoi.
C'est bon. Voilà. Là, c'est plus le visuel, l'attitude. Après, il y a aussi ce que vous regardez bien évidemment, c'est les déplacements des joueurs. Quand un des équipiers a le ballon. Si le joueur, vous voyez que ses déplacements sont beaucoup plus lents, c'est beaucoup moins tranchant, vous sentez aussi qu'il est en train de baisser le pied quand il arrive. Bon, après, il y a des marques, hein, c'est clair qu'après 68, 69 minutes, on sait que la deuxième mi-temps, c'est souvent un peu moins intense. Après, ça dépend de ce qui s'est passé aussi en première mi-temps. C'est tellement variable d'un match à l'autre, mais on sait que après 70e minute, il peut commencer à avoir des petits soucis de fraîcheur pour pas mal de joueurs.
Alexandre Marlowe, c'est ce qu'on va faire parce qu'il y a plein de messages d'auditeurs d'Afteriens passionnés par tout ce que vous racontez. Il y a Pitbull qui nous dit super intéressant. Il faut faire venir Alexandre Marlowe plus souvent dans l'After. On va prolonger 10 minutes si vous voulez bien. Ça vous dérange pas?
Oui, ça marche.
On a encore plein de questions à vous poser dans un instant, des vraies questions. Bon, sur des joueurs, par exemple, parfois, des attitudes aussi. Restez avec nous l'After sur RMC avec Sébastien Piocelle, Kevin Diaz et Philippe Marlowe. À tout de suite.